votre plan
you will see in your outline,
que le thème de la révolution et de la guerre en Espagne entre 30 et 39 est pris pas sous la forme de l'histoire développée et commentée, mais sous la forme de quelques problèmes politiques qui sont discutés, notamment vis-à-vis ce qu'on a déjà pris cette semaine.
To illustrate
donc,
a number
rapport
of political,
de force entre révolutionnaires et réformistes, Front populaire, Front unique, les possibilités de développement de la révolution dans une situation concrète. Donc, j'ai choisi de ne pas faire l'histoire développée de la Révolution. D'ailleurs, je crois que vous avez déjà des éléments d'information.
You know
et d'autre part, c'est une option, je crois, que justifiée. Avant de commencer, il y a... Je crois que c'est utile pour tous les camarades qui veulent développer ces connaissances sur la Révolution en Espagne,
for all people who would like to work more on
de
connaître, the Spanish Revolution, to know,
de situer bien vis-à-vis la masse d'informations et de discussions qu'il y a. Il y a deux livres, notamment, qui sont très utiles.
Which are very useful. For anybody
le
who wants
premier,
to work on this.
Je crois que c'est très connu, c'est celui de
well
Brouet,
Brouet,
La Révolution et la Guerre d'Espagne.
The Revolution and the Spanish War, which is published. I don't know if it exists in English, the Brouet. Does it exist in English? Craig, it's not necessary to smile like that.
Je ne sais pas s'il y a une traduction anglaise, j'imagine que oui.
I'm not sure there is an English translation of this Brouet book. Brouet is a Lambertiste. He is a historian and
donc,
a Lambertiste.
C'est la Révolution et la Guerre en Espagne. Et il y a un autre.
And the other one is by Bolloten.
De Bernard Bolloten, c'est ça? Yes, I think so. En tout cas, il n'existe pas ici dans la bibliothèque. Si vous lisez en français, il y a deux exemplaires en français. Il y a un en espagnol. Bernard Bolloten, c'est un Anglais. Il était correspondant du United Press pendant la guerre en Espagne. Et c'est le livre le plus complet du point de vue du bilan du PC, du stalinisme, des institutions. Il est faible sur d'autres commentaires sur le mouvement ouvrier. Mais de toute façon, c'est celui qui est plus informé et plus complet. Par contre, celui de Félix Moreau, qui est normalement plus connu entre les trotskistes, est beaucoup plus discutable, beaucoup plus limité et surtout... tout à fait sectaire, ce qui veut dire inutile.
Which means useless.
Bon, le rapport prend d'abord la situation générale du pays. Morning, Herman.
Morning.
Bien, le rapport prend d'abord la situation générale du pays.
The report will first
après
take the general situation
31,
of the country.
La proclamation de la deuxième
31,
République.
The proclamation of the Republic.
Après 34,
then
34 l'insurrection
the,
et le bilan
the rising of Asturias,
le
front the
populaire,
of it, the
la guerre civile
front,
et finalement
war,
la révolution et contre-révolution en Catalogne.
Finally, revolution and counter-revolution in
Catalonia. Pour le premier point, vous avez dans votre dans les feuilles qui ont été distribuées le matin quelques cas, quelques tableaux de données. Le premier que je veux commenter, c'est celui qui dit Espagne les années 30. Donc c'est la quatrième page. Vous voyez tout de suite qu'il s'agit Oh. Donc vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'un pays capitaliste avec un développement très limité.
Which is,
il y a 24 millions de population. C'est un pays très agraire encore. 47% de la population active travaille dans l'agriculture. Donc le problème de la terre sera toujours un problème central pour le développement de la révolution et de la stratégie révolutionnaire. Mais il y a un développement de l'industrie. Donc il y a déjà 25% de la population active dans l'industrie. Il s'agit de 4 millions de travailleurs salariés, dont plus de la moitié, dans l'agriculture, et 1,5 million dans l'industrie. Et une des particularités de ce développement industriel, c'est qu'il se situe dans la périphérie de l'Espagne.
Madrid.
Le développement industriel, c'est surtout le Pays Basque et la Catalogne.
And that's not Catalonia.
Bon, le Pays Basque, c'est l'industrie métallurgique, la construction navale. Et en Catalogne, c'est les textiles et des industries de transformation plus légères. Madrid, par contre, c'est toujours, Madrid, elle est encore d'ailleurs, une ville de fonctionnaires, de petite bourgeoisie et de travailleurs du commerce et des services. Vous voyez tout de suite après qu'il s'agit d'un pays où le poids de la petite bourgeoisie est très fort. Il y a donc, nous avons vu déjà un premier problème, la terre. Deuxième problème, un problème central d'alliance avec ces secteurs. Il faut ajouter, et ça c'est un rapport avec ce qui a été dit, que les centres de développement industriel ont aussi sont aussi les centres d'une question nationale. On est bien, c'est une question très discutée. Donc le Pays Basque et la Catalogne, c'est des pays où il y a central dans le développement la personnalité et l'identité nationale du pays, et où il y a des partis nationaux qui ont une base populaire. On voit d'ailleurs comment ils actuent pendant cette période. Après, c'est indiqué une énorme concentration du capital agraire et financier. Le capital financier est tout à fait centralisé par 9 banques. C'est rare à cette époque en Europe une situation comme ça. Et vous voyez qu'il y a 12 000 grands propriétaires agricoles qui ont 7,5 millions de hectares, je sais pas.
No, acres. An acre is not an hectare, but
et qui contrôlent 42% de la population. Il s'agit d'un corps très réduit, 1% de la population active en agriculture. Et finalement, le dernier, quelques données sur la société. Le plus choquant, c'est celui du poids de l'Église. Il y a 136 000 prêtres. C'est deux fois le nombre total national des étudiants universitaires. Et comme vous voyez, plus que le total de soldats dans le pays. C'est une église qui est très active politiquement, qui est très réactionnaire, ce qui explique d'ailleurs un des éléments que je ne vais pas commenter, mais qu'on connaît de toute l'histoire mythologique de la Révolution espagnole, c'est la confrontation entre les masses et les églises, le mort des curés, brûler les églises, qui étaient pris, et on doit le comprendre, et d'ailleurs le comprendre et le défendre, comme des attaques à. Les masses comprenaient ça comme des attaques à la réaction et à l'obscurantisme de l'Église ultra-réactionnaire. Donc le brouet, il existe en anglais ici. Et finalement, nous avons l'armée. L'armée espagnole est très particulière aujourd'hui comme il y a 50 ans. Il y a un déséquilibre énorme dans la structure de l'armée. Vous voyez, il y a presque un officier pour cinq soldats. C'est un rapport extraordinaire de contrôle de l'armée. Un officier pour cinq soldats et très peu de généraux. Donc, très concentré, la structure centrale de décision de l'armée, et après, une couche sociale établie très forte dans la société. C'est une armée qui se forme pendant des guerres coloniales au Maroc et pendant des guerres civiles qui se prolongent pendant une grande partie du siècle XIX. Jusqu'à ces années, là où on commence le rapport, les années 30, pendant le siècle XIX et le début du siècle XX, cette armée a essayé 58 coups d'État. Donc c'est un corps très bien organisé, très séparé de la société, et qui intervient politiquement d'une façon...
Coup d'état,
donc très séparé de la société et qui intervient très activement dans la politique. Il y a eu, pour vous donner une donnée de comparaison très actuelle, le début des années 80, il y a eu une étude très développée sur la sociologie de l'armée espagnole, et cela nous indiquait une donnée surprenante qui explique beaucoup cette fonction de corps séparé de la société. C'est un petit détail, mais ça nous donne une idée. C'était une étude sur le taux de mariage des fils des officiers. Et il nous indiquait que les fils et les filles des officiers se mariaient à 70% avec des fils ou des filles d'officiers. Donc vous voyez, il y a une continuation. C'est un monde séparé qui fonctionne tout seul. Et finalement, nous avons 45% de gens qui ne savent pas lire. Donc ça donne déjà une expression très claire du retard du pays. Si vous ouvriez dans la page d'avant, vous voyez des noms de gens et des noms d'organisations. C'est utile pour vous donner une idée générale, mais surtout pour comprendre l'organisation du mouvement ouvrier. C'est un mouvement ouvrier qui a des traditions anciennes. Ce n'est pas un mouvement tout à fait récent. Le Parti socialiste ouvrier, le SOE, le parti majoritaire du mouvement ouvrier, il est créé 1879. Donc, quand on commence cette révolution espagnole, il a déjà presque 50 années d'activité. L'UGT, la centrale syndicale, est créée 1888. Donc, il s'agit toujours, avec cette énorme force, d'un parti réformiste avec une éducation réformiste profonde, mais il s'agit d'un parti de masse. Le deuxième grand courant du mouvement ouvrier, c'est le courant anarcho-syndicaliste. On verra d'ailleurs quelques des particularités de ce courant qui était à l'époque très fort dans plusieurs pays d'Europe du Sud, mais qui est moins connu dans d'autres pays d'Europe. Et c'est un courant donc la CNT, la centrale syndicale, est créée en 1911. C'est un courant de masse, c'est un courant qui organise la majorité des travailleurs les plus combatifs. C'est peut-être pas, ça c'est discutable, mais enfin, il y a des indications qu'il ne s'agit pas du courant majoritaire là où il y a la grande industrie, mais c'est clair que c'est l'axe central des travailleurs d'avant-garde plus combatif. Il y a aussi une division géographique qui va jouer. L'UGT est plus forte à Madrid et dans l'industrie d'Euskadi. La CNT est plus forte en Catalogne, en Andalousie, où le problème de la terre est central. Et finalement, le PC, il est créé sous l'impact de la Révolution russe 1922, comme la plupart des pays des PC l'Europe du Sud. Il est dès le début un parti très petit et très sectaire. Il a peu de racines dans la société. Les années 30, il a 800 militants. Vous avez là un tableau de comparaison des données du mouvement ouvrier entre 30, 31 et 32, 34. Vous voyez, le PC, il a 800. C'est un parti très petit, ultra sectaire, et très confédéral aussi. Il y a un développement très séparé, très autonome du PC en Catalogne. Et on va voir quelques conclusions. Il s'agit d'un courant dans le PC qui est beaucoup plus à gauche. Donc ça nous donne une idée générale. On peut passer à la discussion. Donc le deuxième point, la deuxième république. Au début des années 30, nous avons le pays, nous avons une monarchie qui depuis 7 années s'organise sous une forme de dictature militaire. C'est la dictature de Primo de Rivera, qui est en décomposition à la fin des années 30, des années 20. Et c'est d'ailleurs le moment où Trotsky commence à se préoccuper et à écrire sur l'Espagne, et il a des textes très importants et très intéressants qui sont confirmés par la suite des événements. Il dit le problème central, c'est le retard du développement d'une société, et qui nous pose un problème stratégique d'orienter la lutte républicaine, donc démocratique, en assumant que le mouvement ouvrier doit lutter pour la démocratie en défendant la République pour écraser la vieille société. Ça correspond au sentiment général de la lutte des masses. Il ne s'agit pas d'une poussée de conscience, d'un mouvement de conscience socialiste, il s'agit d'une dominante complètement républicaine et démocratique. Et c'est d'ailleurs là que le mouvement ouvrier devrait lutter pour un rôle indépendant et dirigeant. Deuxième point, c'est pas l'idée, c'est pas le projet ni des socialistes ni des anarcho-syndicalistes. Le PS a une position menchevique traditionnelle, il attend que les républicains bourgeois prennent la direction du mouvement. Pour la CNT, la conclusion est la même, les prémices sont différentes. La CNT développe un apoliticisme complet. Ça veut dire que ça ne les intéresse pas beaucoup qui est au gouvernement et comment et qui contrôle l'appareil d'État. Ce qui les intéresse, c'est le développement de l'organisation autonome des travailleurs, le développement des de son syndicalisme, et après, il faut détruire l'État. Donc ça, c'est le but des révolutionnaires. L'international communiste, par contre, et ça donne déjà une image de la comparaison avec la position de Trotsky, ignore et méprise ce qui se passe en Espagne. Manuelsky, 1930, quand il y a déjà des grandes luttes républicaines, et quand le début de changement en Espagne était un des éléments essentiels du changement de la situation en Europe, un des éléments centraux et plus importants, évidemment, pour la révolution russe et pour la révolution européenne, il écrit un texte qui est très clair sur ce mépris et cette incompréhension. Et je vais vous lire. Il dit: il faut comprendre clairement que malgré les formes de guerre civile, donc ça il le dit, malgré des formes de guerre civile.
Now, if you quote, slow down.
Donc, il faut comprendre clairement que malgré des formes de guerre civile qui prennent les développements révolutionnaires en Espagne, la classe ouvrière ne remplit pas qu'un rôle très limité à ce moment. Donc, des mouvements de ce type défilent dans l'écran de l'histoire comme un simple épisode et ne marquent pas profondément la société. Une petite grève économique partielle peut avoir pour la classe ouvrière internationale une importance beaucoup plus importante qu'une révolution du type espagnol, qui s'effectue sans que le PC et le prolétariat exercent un rôle dirigeant. Donc vous voyez, c'est un parti, vous l'avez là, de 800 membres, le PC. Donc c'est pourquoi, dit notre staliniste, la révolution espagnole est moins importante qu'une grève économique dans n'importe quel pays. Les PC avaient à l'époque, selon les bonnes consignes du troisième période, une ligne ultra-sectaire. Son mot d'ordre central, c'était les années 30, donc grande montée des luttes républicaines, monarchie, dictature militaire en décomposition. Il disait « À bas la monarchie et la République, vive les Soviets !» Donc c'était là où il y avait des centaines de milliers de gens qui se manifestaient, qui luttaient pour la République. Troisième point, Trotsky et Nin, par contre, ont une compréhension très profonde des événements. Les premiers textes de Trotsky sur l'Espagne, qui sont d'ailleurs le reflet de ce que Nin lui dit, c'est Nin, son correspondant en Espagne, et c'est donc là qui vient tout le centre de la réflexion politique. Il situe très bien les tâches des révolutionnaires. Il y a un texte de Nin que je crois qui n'existe pas en anglais et donc n'est pas dans vos feuilles de travail. Il s'appelle « Les problèmes de la révolution espagnole ». Il est écrit en 1931. Il situe avec une énorme clarté les tâches de la révolution permanente dans le cas de l'Espagne. Il dit qu'il faut développer le programme démocratique de la révolution, donc le programme démocratique de la révolution, centré sur trois tâches immédiates et décisives. C'est la terre. On a vu déjà pourquoi c'est tellement important. C'est la question nationale, en Catalogne, en Euskadi. À l'époque, ils prennent encore des formules limitées. Ils disent autonomie, défendre l'autonomie, mais de toute façon, l'idée, c'est la défense du peuple à l'autodétermination. Ils ne développent pas les formes de cette lutte nationale. Et troisième, c'est la République. Il assume la lutte pour la République, pas comme un changement de forme de gouvernement, mais il dit qu'il faut participer de la poussée du mouvement de masse pour écraser la vieille société. Il ajoute, c'est dans ce sens qu'il faut lutter pour le contrôle ouvrier, il faut lutter radicalement pour la démocratie, pour développer la conscience du mouvement de masse. Donc, ces trois tâches et ce programme démocratique de la Révolution, ils nous situent une lutte dont le but immédiat, ce n'est pas la lutte pour le pouvoir. C'est s'appuyer sur la lutte du mouvement de masse. Et donc, il s'agit de très petits groupes révolutionnaires qui se développent à l'époque et de participer dans ce changement global de la situation qui s'annonce. Il faut avoir clairement l'idée que les révolutionnaires, l'opposition de gauche à l'époque, c'est un groupe très petit et très limité, des très bons cadres, mais ils sont 100 ou 150, vous avez là aussi là indiqué, l'opposition communiste, la gauche communiste d'Espagne, ICE, c'est 100 membres, 1930 et 1931. Mais ce que ce tableau ne vous dit pas, c'est qu'il s'agit de cadres très qualifiés, très bien préparés, mais qui viennent de l'immigration. Ils arrivent pour l'énorme majorité en 1930 en Espagne. Donc ils sont sans contact, sans racine avec la société. Donc il s'agit surtout d'un petit groupe de propagande très idéologique qui n'a pas rapport avec le développement de l'expérience du mouvement de masse les années avant. Donc, quatrième point, la République, il y a des élections municipales en avril 31, les candidats républicains ont la majorité. Le SOE publie un communiqué en disant c'est une grande victoire, cela nous indique que nous allons gagner les prochaines élections parlementaires et c'est là qu'on va imposer la République. Cependant, le mouvement de masse n'attend pas. Il y a des énormes manifestations, les masses encercle les établissements militaires, le roi s'enfuit, en 24 heures, la République est proclamée sans un seul mort. Il faut dire dans cet ensemble de poussée du mouvement de masse spontané qui change la situation politique, tous les politiciens bourgeois, tous les politiciens réformistes sont dans une position très prudente. Celui qui va plus loin, c'est un politicien nationaliste catalan, petit bourgeois, qui proclame tout de suite la République catalane dans le contexte d'une République fédérale qu'il croit qui va être la forme de la République en Espagne. Le PSOE, de sa part, a comme orientation regrouper un nouveau gouvernement de coalition avec des républicains bourgeois, et donc c'est la coalition socialisto-républicaine qui se crée. Avec la particularité qui n'est pas, dont l'Espagne n'est pas le seul cas, où une force importante dans le gouvernement, c'est la continuité du régime qui venait d'être battu. Le président du gouvernement, donc l'équivalent du premier ministre, les ministres et le président du gouvernement.
Non. It's technical.
Ça va?
Yeah, I think so.
Oui.
Yeah.
Donc les éléments de continuité sont notamment le président du gouvernement et le ministre de l'Intérieur, ces deux tâches peut-être les plus importantes, qui sont des défenseurs de la monarchie. Donc c'est un gouvernement très très modéré, avec des positions réformistes très modérées, qui protège l'appareil de répression, qui s'affronte avec des ailes plus radicaux du mouvement ouvrier. C'est l'ouverture d'une période de confrontation limitée des secteurs du mouvement ouvrier avec la République et d'épuisement de ces formules de coalition entre les socialistes et les républicains. Jusqu'à 1934, il y a deux années, qui correspondent au début de la description du mouvement ouvrier de votre tableau, où il y a un gouvernement de centre-gauche, des fortes illusions du mouvement de masse, des confrontations limitées. Deux années après, c'est la victoire de la droite et c'est la victoire de la droite et ce qui est appelé en Espagne. Donc, pendant les deux premières années de la République, c'est un gouvernement de centre-gauche, des fortes illusions du mouvement de masse, des confrontations limitées avec des secteurs d'avant-garde. Après, c'est la défaite électorale. La droite assume le gouvernement et nous avons les deux années qui sont connues en Espagne comme Biennio Negro, les deux années noires, et qui est une répression déjà plus forte contre le mouvement ouvrier. Bon, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qui se passe dans la gauche. Vous avez dans les tableaux des organisations, donc sur l'ensemble, les données de l'évolution. Et vous voyez que le PSOE, d'abord, dans la légalité, il devient très vite un parti très fort. Il avait 23 000 membres en 1930, il multiplie par 3, il a 80 000 en 1932. L'UGT, qui était déjà un syndicat de masse, devient un syndicat très fort, 1 million de membres. La CNT se développe aussi, il avait 600 000 affiliés en 1930. Tous ces chiffres sont un peu discutables, mais disons que c'est une bonne indication. Il y a 1 100 000 membres en 1932. Donc vous voyez, si nous ajoutons les chiffres de l'UGT et de la CNT, ça fait plus de 50% des travailleurs salariés sont affiliés au syndicat. Je crois qu'aujourd'hui en Espagne, il y aura moins de 10% de travailleurs affiliés dans le mouvement syndical. C'est donc 1932, c'est une grande affiliation syndicale, c'est une énorme force dans la société. C'est l'époque où se crée, où apparaît plus ouvertement une organisation politique des anarchistes qui n'existait pas jusqu'à l'époque, c'était seulement un coin anarcho-syndicaliste, c'est la Fédération anarchiste ibérique, la FAI, très idéologique, qui s'est créée avec la même fonction que le SOI avait vis-à-vis de l'UGT. Donc d'être le groupe politique, le noyau politique de la centrale syndicale. Vous voyez aussi que le PC se développe, il a 800 membres en 1930, 5000 en 1932. Et son influence électorale se développe aussi, mais c'est très inégal. Plus au niveau national, par exemple, dans les élections, il a plus ou moins 4%, mais en Andalousie, il a 10%. C'est déjà un secteur où il y aura des luttes sociales très importantes. En Biscaye, dans le au nord, il a plus de 20% aux élections de 1933. Donc c'est très déséquilibré. Il a quand même une organisation syndicale qu'il crée, qu'il s'appelle, dans le cadre de la création des syndicats rouges, la CGT unitaire, qui a 100 000 affiliés. Donc c'est déjà une base de travail d'intervention très importante. Ça recoupe ce que je vous ai dit sur la troisième période. C'est un cas d'un parti qui, malgré sa politique, sa ligne ultra-sectaire, quand même, il se développe, il se construit, il se consolide, et il y a une base de travail, ce qui permet de comprendre le rôle très important qu'il va avoir tout de suite après. Les années 30, il y a déjà la formation du BOC, qui est indiqué dans votre tableau. Le BOC, c'est Bloc Obrer i Camperol, en catalan, le Bloc Ouvrier et Paysan. Il se sépare du PC 1929 avec une rupture sur des critiques contre la ligne ultra-gauche. Il critique la scission syndicale, il maintient un travail important dans la CNT et défend une position de front unique. Donc, c'est la majorité des communistes en Catalogne. Le BOC, c'est un parti qui est tout à fait centré en Catalogne. Il a très peu d'influence, très peu de contacts, très peu de rapports dans le reste de l'Espagne. Et vous voyez, vis-à-vis le PC, le rapport semble très équilibré. 800 membres en 1930, 1932, 5000 membres. Mais quand même, il y a une différence, c'est la capacité de peser sur la politique dans l'ensemble national. Le BOC est beaucoup plus limité que le PC à cause de cette concentration régionale. Et finalement, l'évolution des trotskistes. Les trotskistes aussi se développent. Vous avez 1930, 100 membres, 1932, 34, 400 membres. C'est un petit groupe, mais c'est trop peu vis-à-vis de la situation politique. Là, enfin, il se multiplie par 4, le PC se multipliait par 5 ou 6, donc il semble que la différence proportionnelle se maintient plus ou moins, mais cette mathématique n'est pas politique. Parce que 400 membres, c'est trop peu, c'est très limité pour avoir un rôle dans la situation politique. Mais en plus, et ça c'est le grand problème, ils avaient une ligne politique qui ne leur permettait pas de répondre au problème de construction d'un parti révolutionnaire. Il y a une erreur de perspective, il était commenté hier dans le rapport que vous avez entendu sur la construction de l'international. C'était la ligne générale que Trotsky défendait, qui était appliquée, de créer les petits partis de l'international comme des fractions publiques de l'international communiste. En Espagne, ça avait une fonction de distorsion complète de l'intervention des révolutionnaires. Vous avez un appareil syndical énorme des socialistes, des anarcho-syndicalistes, qui est tout à fait l'influence majoritaire dans le mouvement ouvrier. À côté, un petit parti ultra-sectaire, le PC, et donc cette orientation amenait les révolutionnaires à s'adresser d'une façon propagandiste, idéologique, permanente, comme élément d'identité, à ce petit groupe ultra-sectaire avec lequel, d'ailleurs, ils ne pouvaient pas avoir aucun rapport. Vous voyez, il s'agissait de militants de cadres politiques très valables. Comme je vous ai dit, très peu implantés, avec peu de rapport avec l'expérience de la lutte pour la République, et qui, en plus, créaient une éducation, une tradition militante de pression idéologique sur un parti qui n'était pas un parti de masse et qu'il ne pouvait pas influencer. Ça, l'élément le plus négatif de tout cela, c'est la perte de temps. et c'est la perte en éducation et perspectives politiques. Les militants s'entraînaient, s'habituaient à penser et à dire, à défendre, à s'identifier avec ce que le PC devrait faire. Donc, ils étaient trop peu, très limités pour intervenir dans la situation politique. Son intervention, c'était dire ce que le PC pouvait faire. Et vous voyez, donc, c'est même en lisant, c'était peut-être intéressant d'avoir un ou deux textes de cette époque, des tracts, des journaux. C'est très désespérant de voir comment ça se passe dans la pratique. Donc tous ces textes, le PC doit faire ça, le PC doit dire, le PC a fait une erreur. Donc ça coupe tout à fait les rapports avec l'avant-garde, et ça retire l'identité, l'idéologie militante, et ça entraîne un rythme très idéologique, donc une énorme fragilité du groupe. On doit discuter, et ça c'est le problème central pour cette période, si cette orientation n'a pas une responsabilité forte dans le retard de développement d'un pôle indépendant qui permette de se rapprocher de la radicalisation de l'avant-garde. C'est, je crois, le cas. Bon, je saute le troisième chapitre, 1934. Donc, nous avons eu déjà beaucoup de commentaires sur la situation politique internationale d'ensemble à cette époque. Vous savez, c'est la montée d'Hitler, c'est un changement global en Europe, la dynamique unitaire très forte du mouvement ouvrier, c'est la crise économique aussi qui se développe avec un certain retard en Europe vis-à-vis son début américain. C'est en 1933 et 1934 qu'elle arrive et frappe l'Espagne avec beaucoup de force. Il a 300 000 chômeurs en Espagne à l'époque. 1933 aussi, c'est un gouvernement de droite. C'est la droite qui gagne les élections. Et ça, dans le contexte européen, on peut bien le comprendre, a un impact très fort dans le mouvement ouvrier. Et notamment, le parti le plus droitier de la bourgeoisie que vous avez, qui est indiqué là, il s'appelle SEDA. Donc la Confédération espagnole des droits autonomes, c'est un nom très bizarre, mais il s'agissait du regroupement d'une série de partis catholiques de droite dirigés par Gilles Robles, était compris dans le mouvement ouvrier comme un groupe semi-fasciste. La conscience élémentaire du mouvement ouvrier, c'était que si Robles entre au gouvernement, nous sommes dans la voie allemande vers le fascisme. En fait, en 1933, Robles fait une campagne, impose au gouvernement son entrée, et ça provoque des réactions très fortes dans le mouvement ouvrier. On va les voir avec l'insurrection de Asturias et le développement des alliances obreras, des alliances ouvrières. Nous avons alors quatre attitudes dans la gauche vis-à-vis pour répondre à cette poussée de la droite, montée du mouvement défensif unitaire des travailleurs. D'abord, la CNT. Dans sa tradition anarcho-syndicaliste, la CNT développe une ligne d'insurrection localisée. C'est surtout dans la région sud, Extremadura et Andalousie, où il y a plus de mobilisation armée des masses. C'est des mobilisations massives, on ne peut pas les critiquer comme des petits coups insurrectionnels d'avant-garde. C'est pas du tout ça, c'est des insurrections massives d'ouvriers qui prennent, mais très localisées, très limitées. Normalement, les ouvriers, les travailleurs agricoles, prennent les armes, ce qu'ils ont, ils occupent une petite ville, une petite localité, ils désarment la police, ils démissionnent la municipalité et ils créent, au niveau local, le communisme libertaire. C'est des expériences d'une audace et très impressionnantes. Évidemment, l'inefficacité est aussi grande. Normalement, le premier décret qu'ils prennent, c'est abolir la monnaie, la circulation monétaire, armer le peuple. Et la troisième grande discussion, c'est aider le peuple à résoudre ses problèmes affectifs et sexuels. Donc il y a toute une partie de... Enfin, c'est à l'application du communisme libertaire, comme ils le comprenaient. Il y a des décrets qui sortent. Donc l'argent ne circule pas plus, les armes sont données au peuple. Il faut que le peuple résoudre, donc les gens puissent résoudre librement ces problèmes affectifs et sexuels. Évidemment, comme vous pouvez comprendre, la stabilité politico-militaire de ces opérations est tout à fait limitée. Ils sont très vite battus, quelques heures, quelques jours, c'est très vite décidé. Le SOI, par contre, aussi sous l'impact de cette situation, connaît un tournant de gauche. Il s'agit d'un parti très grand, un parti avec des traditions de fractions publiques, de fractionnement ouvert. La gauche, à l'époque, se développe rapidement. Il y a, vous pouvez lire dans ce livre, il y a des descriptions des meetings du Parti Socialiste où venaient des dirigeants de la droite, du secteur de la droite, dans des zones ouvrières, avec quelques dirigeants de l'UGT, et qui étaient expulsés de la salle par les militants qui leur tiraient dessous. Ils tiraient, donc il y avait tout cet armement élémentaire des gens, et ils l'utilisaient fréquemment. La gauche est contrôlée et dirigée par un homme, Largo Caballero, qui est un personnage très particulier de cette époque. Il arrive à être connu comme le Lénine espagnol. C'est un vieux homme, il a 70 ans. Il vient de toute la tradition du Parti Socialiste et vous verrez que pendant le début de la Révolution, il prend des positions très radicales, très gauchistes. Il défend la dictature du prolétariat, l'armement du peuple. Enfin, il apparaît comme un courant très différencié dans le Parti Socialiste. Quand même, il a toute une tradition, il est une partie de la tradition réformiste du Parti Socialiste, il est dirigeant de l'UGT, et il avait été membre du Conseil d'État, conseiller sur le travail de la dictature de Primo de Rivera. C'est d'ailleurs ce qui explique déjà une grande confrontation entre ce courant gauche du Parti Socialiste et la CNT, parce que Largo Caballero, comme conseiller d'État de Primo de Rivera, utilisait ses fonctions au niveau d'État pour défendre, protéger et développer l'UGT contre la CNT. Donc ils avaient déjà des vieilles histoires entre eux. C'est bien sûr que la CNT aurait des très bonnes raisons. Donc il y a une troisième position, à part celle de la CNT et du SOI, c'est celle du PC. Avec cette montée du mouvement unitaire, du mouvement démocratique, de la réponse du mouvement ouvrier contre la montée de la droite, le PC maintient une ligne ultra-gauche pour les soviets. Quatrième position, c'est la plus intéressante, celle qui nous intéresse le plus, c'est la ligne du BOC. Le BOC qui est dirigé par Maurine, il comprend très bien la situation et il nous donne une des expériences limitées et bien réussies de front unique pratique imposée et créée par un petit parti vis-à-vis des grands partis de masse. Je vous ai dit avant-hier que pour la plupart, et ça a eu une influence, un rôle dans l'international communiste, les projets de front unique n'ont pas réussi, n'ont pas eu de résultat. Mais celui-là, il y a eu un résultat très important et très déterminant pour le futur de la Révolution d'Espagne. Le BOC est un petit parti, mais il a un poids en Catalogne, il comprend la situation, Et il comprend qu'une des clés de la situation, c'est la division syndicale et le sectarisme entre les grands secteurs du mouvement ouvrier. Et il essaye de répondre à cette question en prenant un thème alors central, c'est le chômage. Le chômage était très fort à Barcelone. Et il organise une petite conférence ouvrière contre le chômage. C'est février 1933, donc l'époque de la montée de la droite. Évidemment, les grandes centrales, l'UGT et la CNT, ne participent pas. Mais il y a les militants du bord, il y a des syndicalistes indépendants, et le thème attrait les gens, crée une attention dans le mouvement ouvrier. La conférence ouvrière, elle est limitée, elle approuve un petit programme de revendication, elle enclenche quelques mobilisations, et elle commence à avoir des petits résultats. Elle impose au gouvernement de Catalogne la concession de quelques subventions. Et donc, il y a un petit changement dans la situation du chômage dans la zone. Et quand la réussite prouve qu'une petite initiative comme ça peut se développer, le BOC essaie de généraliser le Front Unique dans la base des syndicats. Et des petits comités de Front Unique, des comités d'unité, commencent à apparaître dans la base de plusieurs syndicats de l'UGT et de la CNT. Je vous ai dit que le BOC avait une intervention importante dans la CNT. Le bilan positif s'impose aux travailleurs. Ça commence à être connu, ça commence à être discuté, ça commence à apparaître en dehors de l'influence directe de l'organisation. Donc ils ont pris un thème qui leur permet de développer rapidement un modèle d'activité politique centralisée du parti et une petite initiative à son échelle. Quand il y a eu le succès, ils commencent à généraliser cette initiative, commencent à faire la propagande, à expliquer l'exemple, à faire des propositions, et ils proposent alors l'Alliance ouvrière. Alliance Obrera, il s'agit d'une proposition simple, le Front Uni des organisations ouvrières qui va se convertir avec son développement dans l'instrument central de la montée de 1934 et après de l'insurrection asturienne qu'on va voir après. Ces alliances ouvrières se développent dans le pays, commencent donc à avoir déjà un rôle politique et être connues dans le mouvement ouvrier. Le capital politique essentiel de ces alliances ouvrières, il faut bien comprendre son importance et ses limitations. C'est des organismes de défense qui sont créés dans la montée, dans la poussée défensive, unitaire, démocratique du mouvement ouvrier. Donc contre les menaces fascistes, pour les revendications immédiates, donc il y a y compris des énormes différences dans le dans les diverses régions. En Catalogne, c'est où il y a un succès le plus important. Vous avez là, dans la carte des organisations, des alliances ouvrières, donc du changement de situation pendant l'année 33 et 34, l'initiative du BOC et les positions prises par la CNT dans ce contexte. Il faut ajouter maintenant la position que le SOE a pris vis-à-vis la nouvelle conjoncture et la proposition d'alliance ouvrière. Parce que là, nous avons tout l'impact du changement interne dans le PS et de la montée de la gauche. Le dirigeant principal, c'est maintenant Largo Caballero. Il était ministre du premier gouvernement socialiste-républicain. Il évolue à gauche après et il déclare son soutien aux alliances ouvrières en les théorisant d'une forme tout à fait radicale. Une courte citation vous l'indique d'une façon claire. Il dit, comme les droites pour se défendre ont besoin de sa dictature de classe, les travailleurs, une fois au pouvoir, créeront aussi la dictature du prolétariat. L'heure des chocs décisifs s'approche, le mouvement ouvrier doit se préparer pour la révolution. Maintenant, vous pouvez imaginer l'impact d'une ligne politique comme ça, d'une orientation comme ça, dans un parti qui a 80 000 membres et qui dirige une centrale syndicale. Là, Lario Caballero était d'ailleurs un des dirigeants de l'UGT, qui a 1 million de membres. Ça a un impact terrible. Ça change déjà des éléments de la situation politique. Le PS et l'UGT participent dans les alliances ouvrières. C'est son développement à l'échelle nationale. Cependant, le PS insiste sur deux conditions. Première condition pour le développement des alliances, il ne faut pas qu'il y ait des organisations à la base. Les alliances doivent être des organisations au sommet des organisations ouvrières et donc pas de comité à la base. Et deuxième, ça devient le plus important, les alliances doivent être utilisées seulement pour l'insurrection, pas d'autres fonctions, l'insurrection. Il dit, ça a une logique pour le travail quotidien, les problèmes de revendication, nous avons l'UGT, nous avons le syndicat, c'est pas nécessaire. Il faut pas prendre aucune position concrète. Aucune position sur des grèves, sur des problèmes, des confrontations. D'où, quand le SOE contrôle les alliances ouvrières, elles sont très limitées, elles ne se développent pas. C'est quand le rapport de force est un peu déséquilibré qu'il y a des grands changements de la situation politique. De toute façon, les alliances se développent, ils discutent de la préparation de l'insurrection. Le prétexte de la mobilisation générale, c'est quand le gouvernement accepte le chantage de Robles et la cède entre au gouvernement. Alors, la grève générale est proclamée, le résultat sera très inégal au niveau national, c'est seulement en Asturie qu'il y a l'insurrection, on verra quelques détails. Maintenant, dans le cadre national, l'inégalité des alliances ouvrières va peser d'une façon décisive. À Madrid, donc, où le PS est très fort, c'est l'association où Largo Caballero a d'ailleurs plus de poids dans le Parti Socialiste, l'insurrection ne se développe pas. Juan Andrade, militant trotskiste, après un des dirigeants essentiels du PUM, il racontait ce qui se passait pendant ces journées. Il dit, les travailleurs, ils avaient quelques armes. Ils étaient dans les rues, ils se confrontaient, se bagarraient pendant des journées avec des forces loyales au gouvernement, mais ils n'avaient pas de plan et ils attendaient l'intervention de quelques unités qui étaient, dont les chefs d'insurrection, dont les chefs des alliances ouvrières disaient qu'ils allaient collaborer, participer dans l'insurrection. C'était notamment le cas des aviateurs, de l'aviation, et le cas des troupes d'assaut de la police. C'est d'ailleurs contre les troupes d'assaut de la police que les travailleurs se bagarrent, parce qu'ils n'étaient pas, de fait, compromis avec la révolution. Mais c'est surtout l'attente, ce qui pourrait changer la situation, c'est donc la contribution, le soutien des armes, des aviateurs. Et il dit comment la confiance, le rapport des socialistes avec les officiers républicains justifiait le non-armement de la population, donc paralysait la lutte des travailleurs. Il dit, les travailleurs de Madrid passaient les jours en regardant les ciels pour savoir si les aviateurs arrivaient. Voilà le rôle des masses dans la politique social-démocrate, regarder le ciel. En plus, il y avait des limitations dans les préparations politiques de l'insurrection, et la limitation, vous pouvez la comprendre tout de suite avec cet élément, c'est que le programme politique de l'insurrection était secret. Il y avait les alliances ouvrières, on savait qu'ils préparent l'insurrection, c'est la réponse des travailleurs, mais ce qu'on va faire, le programme, c'est secret. On ne peut pas le dire parce que ça donne des données à l'ennemi. C'est seulement deux années après, en 1936, donc la conjoncture c'était déjà tout à fait différente, qu'on connaît le programme. Et on comprend d'ailleurs pourquoi il n'était pas diffusé à l'époque de la lutte insurrectionnelle de 1934. C'est parce qu'il s'agissait d'un programme très limité, très modéré, très réformiste, dont le projet essentiel c'était de créer un nouveau gouvernement de coalition socialiste-républicain. De toute façon, ça nous donne une idée aussi de la nature réelle réformiste de ce courant de gauche dans le Parti socialiste, mais il faut comprendre que ce manque de mobilisation politique et de clarté politique diminuait la capacité d'action du mouvement. Maintenant, le PC maintient à l'époque, nous sommes déjà en 1934, une position très sectaire et qui prend les alliances ouvrières comme un ennemi essentiel. Ils expliquent, je ne vais pas vous lire, c'est déjà un peu long, mais ils expliquent que le Soy et l'UGT et quelques renégats du communisme créent les alliances pour, maintenant la phrase est magnifique, pas au moment où les travailleurs socialistes et communistes, sous le feu de la grandiose campagne menée par le PC, faisaient des accords et développaient des luttes en commun. Et il dit la création de ces alliances ouvrières est un obstacle contre la fraternisation des travailleurs socialistes et communistes. Vous voyez, un très petit parti avec peu de milliers de membres, il n'avait aucune capacité de changer cette situation au moment où se créent les alliances ouvrières partout dans le pays, avec un impact sur des centaines de milliers de travailleurs, créer toute cette théorie, cette mythologie propre pour justifier sa ligne sectaire. Ce texte, donc, cette explication du sectarisme est datée de 15 jours avant l'insurrection des Asturies. Cependant, le PC devient un des grands gagnants, un des grands vainqueurs de démobilisation d'octobre 1934. Et c'est peut-être paradoxal, c'est surprenant, et c'est une grande chance pour le PC. Ça va avoir une influence énorme dans le rapport du PC avec l'ensemble du mouvement ouvrier pendant les années qui viennent. Il y a deux raisons essentielles pour ce changement paradoxal. D'abord, le PC a quand même la capacité, l'habilité de changer de politique une journée avant l'insurrection. Il disait contre les alliances ouvrières, ça signifie rien. Une journée avant l'insurrection, il change, il entre dans les alliances ouvrières. Mais deuxième élément, et là, c'est déjà peut-être un peu de chance, c'est que le seul local du pays, la seule région du pays où l'insurrection se développe réellement et prend et décide un rapport de force et change leur rapport de force dans la société, c'est en Asturie. Et les Asturies, c'est la région minière où le PC a un rapport de force très fort. Donc, c'est la seule région du pays où ça a un impact politique profond, c'est là où le PC peut jouer un rôle. Et c'est pourquoi, après 1934, le PC crée une image de parti protagoniste de la Révolution. Depuis 1935, il est le parti de l'insurrection des Asturies et ça a un rôle dans toute l'avant-garde. Et vous voyez la comparaison avec le BOC qui est centré en Catalogne, qui initie une ligne de Front Uni qui est dans la création des alliances ouvrières, mais en Catalogne, il n'y a pas d'insurrection. De fait, les forces dominantes en Catalogne attendent la collaboration du gouvernement nationaliste. Cette collaboration n'arrive pas. J'imagine que les travailleurs aussi regardaient les ciels. Il n'y a pas d'insurrection. Donc, le rôle, l'impact que les deux parties ont change, est tout à fait déséquilibré. C'est le PC qui gagne dans cette affaire. Asturie, c'est 15 jours, donc début octobre 1934. L'insurrection se déclenche, les comités ouvriers se développent partout, ils contrôlent toute la vie sociale et contrôle les organise les tâches militaires, dirige la société, les villes, il rompt tous les mécanismes de la légalité. Et donc il y a une profonde dynamique prolétarienne. C'est une révolution prolétarienne, ça n'a rien à voir avec les politiques de front populaire qui viennent après. De toute façon, c'est une révolution isolée. Elle est très isolée et dès le début, elle est condamnée. Et dans ces moments clés, le PC prend des initiatives et prend des positions très intelligentes. On sait, après 10 jours de lutte et de contrôle des Asturies, que la révolution ne peut pas vaincre. Donc qu'il y a déjà des troupes qui arrivent. Il y a Oviedo, une des villes centrales qui est contrôlée par le gouvernement et où il y a des troupes marocaines et des légionnaires étrangers qui vont être utilisés à fond pour écraser la révolution. C'est d'ailleurs la première expérience de Franco et de toute sa, de son utilisation des troupes marocaines dans la contre-révolution en Espagne. Donc ça, on sait après 10 jours de la révolution en Espagne, de la révolution en Asturies. Et là, il y a la discussion. Qu'est-ce qu'on va faire? Le PC prend une position qui va renforcer énormément son prestige vis-à-vis de l'avant-garde. Et là, il y a déjà une discussion tactique concrète. Ils savent, tout le monde sait, tout le monde comprend que la défaite est inévitable. Les socialistes et les anarcho-syndicalistes décident d'essayer de négocier, d'essayer de sauver des vies, d'éviter l'écrasement militaire de l'insurrection. Et le PC prend une position tout à fait contraire à toute négociation. Il dit non, il ne faut jamais se rendre. Il faut continuer la lutte jusqu'à la fin. Et ça crée une image durable de courage révolutionnaire. Et qui est un rapport, c'est ça qui est important, c'est peut-être l'élément qui nous intéresse le plus dans la discussion sur si cette position était aventurière, si elle était correcte ou pas, c'est que ça, c'est un rapport avec la conscience de l'avant-garde. L'avant-garde révolutionnaire, les militants, l'avant-garde des alliances ouvrières, c'est ça qu'ils pensent. Et c'est ça qui va faire le rapport avec ce que les ouvriers de tout le pays s'attendaient de la révolution, et c'est ça, ça marque les espoirs qu'ils avaient. Je vais vous lire un très petit texte. Il est écrit dans un livre d'un auteur trotskiste, un militant de la gauche communiste. Il était en Asturie. Il raconte comment se discutait dans un petit comité révolutionnaire dans un village entre des membres d'une même famille. Le père, il disait, je suis déjà, j'en ai marre des discussions. Si les troupes de Oviedo, donc les troupes contre-révolutionnaires, sont arrivées, c'est encore moins une motivation pour s'enfuir. Un bon révolutionnaire reste et se fait tuer. Et son fils répond, si on doit mourir, on doit mourir tous, c'est la même chose. La révolution est déjà battue, nous avons lutté ici tous les jours et le reste de l'Espagne n'a rien fait. Donc, on doit aller mourir à Oviedo. On doit affronter les troupes d'Oviedo. Ceux d'Oviedo auront la shame de nous avoir laissés seuls et pour mourir, pour être battus, il vaut mieux mourir sous les coups de l'ennemi. Donc ça, c'était, c'est pas une image littéraire, c'est ce que les gens pensaient. C'est l'avant-garde de cette lutte, c'est ce qu'ils pensaient, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, et c'est l'impact profond de cette initiative qui explique que Nin considère cette défaite une défaite féconde. Il écrit, le terme est un peu contradictoire, quand même il y a eu des milliers de morts, il y a 30 000 prisonniers politiques, mais Nin dit quand même c'est une défaite féconde. Ça a un énorme impact pour le futur, ça ne démoralise pas à long terme le mouvement ouvrier, ça nous indique qu'il faut continuer la lutte, et ça nous indique que les méthodes insurrectionnelles peuvent réussir, et donc que les alliances ouvrières peuvent continuer. Il y avait là peut-être un peu trop d'optimisme. On va le voir après quand tout le problème se complique beaucoup. Mais c'est déjà un élément constitutif de l'expérience du mouvement ouvrier dans la lutte révolutionnaire et l'opportunité va arriver tout de suite après. Et donc nous arrivons au quatrième point, le Front populaire. Le Front populaire était pris dans les rapports d'avant, surtout sous son angle, comment cette expérience se forme dans les débats internes de l'international communiste, un Allemand avec l'expérience allemande, dans l'évolution des générations de l'international communiste, le 7e congrès. Maintenant, il est très utile de faire le rapport entre ces théories, ces discussions idéologiques et ces approches pratiques avec un exemple tout à fait concret que nous avons en Espagne. Donc je vais prendre d'abord ce que sont les faits de base et après les comparer un peu avec la théorie du Front populaire pour qu'on fasse bien la distinction. Bon, d'abord, quelle est l'expérience pratique après octobre 34 et donc il y a un changement de la situation. Un des dirigeants les plus réactionnaires de la droite espagnole, Calvo Sotelo, il dit 15 jours après la défaite d'Asturias que les révolutionnaires sont récréés moral et spirituellement. C'est un peu la formule de Nine, d'ailleurs. Il comprend 20 jours après que la situation, même si le mouvement ouvrier est à la défensive, c'est une situation déjà très instable. La République est ingouvernable. Il commence à comprendre cela, et c'est d'ailleurs de cette époque qu'il commence tout le développement de la préparation du coup militaire. La bourgeoisie commence à abandonner la République, et on peut bien se demander quelle base il y aurait-il donc pour l'alliance de classe qui était supposée supporter le Front populaire. La situation politique change, Trotsky le comprend aussi. La situation passe à une situation défensive parce qu'il n'y a pas eu une victoire révolutionnaire. Et l'amnistie, donc à nouveau un thème démocratique, devient le thème central, l'objet central de la lutte. C'est le thème le plus important pour la lutte du mouvement de masse. Gagner la libération des nôtres qui sont en prison, ces 30 000 prisonniers politiques. Et c'est à cause de cette pression démocratique unitaire, l'amnistie, qu'il y a une généralisation de la pression unitaire, y compris sur le terrain électoral. Il faut le comprendre, c'est pas, on ne peut pas lire l'histoire sous la forme des manœuvres des staliniens pour faire le Front populaire. Le Front populaire apparaît à la suite d'une énorme pression du mouvement de masse avec l'idée très simple, il faut l'unité, l'unité pour gagner les élections pour libérer les nôtres. Et le SOE reprend cette idée, évidemment parce qu'il est intéressé pas à continuer les alliances ouvrières, mais à reprendre la formule du gouvernement socialiste républicain et donc à récupérer toute cette théorie. On est dans une étape où les républicains doivent, donc la bourgeoisie, doit être au gouvernement pour le développement général de la situation. Le PC aussi a tout l'intérêt, il est déjà sur la ligne du 7e congrès, donc une grande partie des forces du mouvement ouvrier prennent cette pression unitaire et essayent de la transformer dans le projet de Front populaire. Donc, à la fin de 35, début des années 36, le Front populaire se constitue et voilà son programme et son fonctionnement. D'abord, il n'y a pas des grands courants bourgeois, il y a, disons, une gauche républicaine, des républicains libéraux qui sont dedans, notamment Azaña, qui devient le président de la République après. C'est des gens très droitiers. Dans un meeting de cette campagne électorale qui va donner la victoire au Front populaire, Azaña, il dit, notre objectif, c'est imposer la vacune, ça se dit comme ça, une piqûre pour éviter la maladie. Donc, c'est faire la vaccine réformiste contre contre le cancer. Mais le cancer, c'est pas le fascisme, donc, qui était fort, qui se développait, qui était une menace. C'est la révolution, c'est le communisme. Donc, vous voyez déjà l'image de ces gens qui sont les alliés des socialistes et des communistes dans le Front populaire. Le programme aussi, c'est une image très claire de cela. Le programme accepte le droit de veto des républicains sur toutes les revendications. Il est écrit d'une façon qui l'exprime avec une totale clarté. Il dit, les socialistes, les partis de gauche, sont pour la nationalisation de la banque. Et il ajoute, mais les républicains n'acceptent pas. Il dit, les socialistes, le mouvement ouvrier, ils sont pour le contrôle ouvrier. Mais les républicains n'acceptent pas. Les partis de gauche sont pour la réforme agraire. Mais les républicains n'acceptent pas. C'est écrit dans le texte. Le mouvement ouvrier, donc, a ses revendications, il les annonce, mais le programme, il y a le veto des républicains. Donc, c'est le programme des républicains qui passe. Et finalement, et c'était logique, si les républicains doivent être la majorité au gouvernement, si c'est son programme qui est le programme du Front populaire, il faut leur donner la majorité. Et le Seuil accepte des calculs électoraux pour donner la norme majorité, pour essayer de donner la majorité aux républicains. Donc ils présentent les listes de telle façon qu'un député du PSOE est élu par 13 000 voix du Front populaire, un député républicain est élu par 4 000 voix du Front populaire. Donc c'est les partis de gauche, c'est les votes de gauche qui vont élire les députés républicains et leur donner une place au Parlement qu'ils n'avaient pas du tout au niveau électoral ou au niveau social. Le PC, il a une pratique beaucoup plus double. Il dit, d'une partie, il soutient tout à fait le Front populaire et son programme, et d'autre partie, il publie en même temps un programme absolument radical. Il défend épuration de l'armée, des milices populaires, annulation de toutes les lois du Parlement d'avant, donc toutes les lois, c'était le premier décret qu'il proposait, expulsion des religieux, et confiscation de ses biens pour les chômeurs, etc. C'est avec, il faut quand même comprendre l'effet de ce programme tout à fait radical et de l'acceptation du Front populaire. Donc, le Front populaire, c'était l'orientation politique, c'était la pratique. Mais le programme maintenait une certaine identité des militants, permettait de gagner du terrain. Par exemple, parmi les jeunes socialistes, c'est là qu'il gagne Carrillo, qui était dirigeant de la jeunesse socialiste, et permet de maintenir chez les militants une idée, on fait ça, mais notre réel but, c'est la révolution, donc c'est les milices, la confiscation, c'est le développement, détruire l'armée, c'est donc la révolution. Et cet effet est très important pour comprendre le rôle que PC peut avoir. Il est en rapport avec l'impact et la sympathie qu'il crée avec la révolution des Asturies. Bon, maintenant, voyons le POM. À l'époque de 35-36, le POM est déjà créé avec la fusion entre la gauche communiste, Izquierda Comunista, dirigée par Nin et Andrade, et le BOC de Catalogne. Les trotskistes étaient déjà un groupe relativement important, ils étaient déjà peut-être 800. Il y a au début des années 33-34 un début de rapprochement de contact entre le BOC et l'opposition de gauche. En 35, quand il y a la fin de 35, quand il y a la fusion entre le groupe de Nin et le BOC, c'est déjà un groupe important. Il est fort en Catalogne et il commence à avoir déjà une influence dans d'autres régions du pays. Il s'agit donc du noyau central, disons, des forces révolutionnaire, avec une certaine capacité d'initiative, bien sûr, en Catalogne, dans quelques autres régions, on va les voir aussi pendant les années qui viennent. C'est un parti qui est créé sur la base d'un programme révolutionnaire tout à fait clair. Il n'y a aucune différence entre le programme qu'ils avaient et, disons, la compréhension profonde des tâches qu'ils avaient du point de vue de la révolution et le nôtre aujourd'hui. La question, le grand problème, c'est de savoir comment se déroule le projet politique, comment se développe le projet politique et s'ils avaient ou pas des conditions pour lutter pour la majorité du mouvement ouvrier. Dès le début, cependant, Trotsky considère ce parti comme un parti centriste. Et vous verrez, y compris dans les textes de 38, des références très sectaires qui marquent toute la pensée et toute l'attitude pratique de Trotsky vis-à-vis le BOC qu'il considérait comme bucariniste et vis-à-vis le POM qu'il considérait comme traître en particulier Nin y Andrade, qu'il considérait comme des prêtres. Donc cette attitude, qui est une attitude dictée par la rupture de 34 de Nin et par la, donc, par la faiblesse des trotskistes vis-à-vis de la situation de l'Espagne, va diminuer, va empêcher complètement la capacité d'intervention de Trotsky et d'influence sur les développements, l'avant-garde révolutionnaire dans le pays. Maintenant, dès le début, le parti se crée fin 35. Tout de suite après, il est confronté avec un grand problème politique, et c'est le premier test à son évolution politique, c'est la formation du Front populaire et les élections février 36. Il s'agit d'un problème difficile. Vous savez que le POM décide à l'unanimité de son comité central de participer au Front populaire. Il participe sur les listes, il élise un député, c'est Maurin, et la position trotskiste traditionnelle, c'est ça, c'est une trahison. Donc ça, la rupture de Trotsky devient tout à fait définitive. Il y a peut-être 20 ou 25 trotskistes qui restent avec la position de Trotsky en critiquant cette position. Ils sont à Madrid, ils auront très peu de capacité d'intervention après. Mais cette définition d'ensemble de Trotsky a empêché, et ça se voit dans ces textes, toute la réflexion tactique sur le moment même. Voyons alors pourquoi le POUM a décidé d'entrer au Front populaire. Le POUM, il utilise trois arguments. On doit les voir et les discuter. Le premier argument, il est vrai. Il dit qu'il y a une énorme pression du mouvement de masse. On a vu pourquoi. La volonté de libérer les prisonniers, la lutte démocratique, la lutte contre la montée du fascisme. Il faut éviter l'isolement. C'est tout à fait valable. Il dit qu'il y a une pression énorme pour gagner les élections. On ne peut pas se placer d'un point de vue où on puisse être vu par un mouvement ouvrier comme responsable de la défaite électorale, donc du prolongement du gouvernement de la droite. Deuxième argument, il est déjà faux. Il dit que l'accord du Front populaire est purement technique. C'est une technique électorale pour diviser, pour distribuer les forces de la gauche, et ce n'est pas un compromis politique. Là, ce n'est pas vrai. En plus, ce n'est pas vrai parce que Maurin, le député du POM, à la première session du Parlement, a voté la confiance au gouvernement du Front populaire, qui était composé exclusivement par des ministres républicains bourgeois, donc le gouvernement Hazaña. Il vote le programme du gouvernement. Si c'était un accord purement technique, il était libre et indépendant, il pourrait rejeter, comme il le devrait faire, cette confiance à un gouvernement qu'il ne pouvait évidemment pas accepter. Le fait, c'est que le POM prend le Front populaire, analyse le Front populaire, pas par son rôle institutionnel et politique dans le rapport de force de la société, mais par les illusions des masses et par ce que les masses pensaient du Front populaire. Et là, c'est déjà un danger énorme. Et troisième argument, ils disent qu'il faut participer dans la campagne électorale et gagner des positions parlementaires qui sont importantes pour le futur. C'est vrai, mais c'est limité. C'est vrai que le POM profite de la campagne électorale pour faire une campagne nationale comme ils n'avaient jamais eu. Ils ont des meetings énormes à Madrid, par exemple, où ils avaient très peu d'influence organisée. Cependant, ils gagnent seulement un député sur 343 de la gauche. Ce député, Maurin, il parle quatre fois pendant la législature. Deux fois, il semble que c'est des discours importants, deux fois, c'est des choses très banales. Et un des discours importants, c'est pour expliquer pourquoi il vote le soutien au gouvernement Hazaña. Donc, la rentabilité parlementaire est a posteriori, on peut dire, qu'elle est très limitée. Maintenant, le grand problème politique, en analysant ces arguments, c'est de savoir quelle était l'autre politique possible, alternative. Et Trotsky dit qu'il faut être le principal adversaire du Front populaire. Et ça, c'est faux. Ça ne permettait pas d'intervenir dans la situation pendant cette période. Vous voyez dans, dans la carte des élections, les élections sont gagnées par une petite différence, 200 000, 300 000 voix, et évidemment, les révolutionnaires ne pouvaient pas courir le risque d'être les responsables par la, par la victoire de la droite. Ça, c'est sûr, c'était une position tout à fait fausse. Par contre, on peut se demander si ce n'était pas possible de voter le Front populaire, donc de participer dans les élections en votant le Front populaire, sans se compromettre avec son programme et ses institutions, disons-le comme ça. C'est ce que la CNT, de fait, a fait. La CNT, une grande partie du mouvement ouvrier, vote, vote Front populaire, mais ne participe pas, donc maintient une indépendance. Donc le problème, c'est de savoir si un projet politique et un projet de construction ne pouvaient pas aller dans la direction d'essayer d'influencer la CNT, la gauche socialiste, donc ces avant-gardes, ces secteurs d'avant-garde qui se développaient dans la radicalisation de la situation, en évitant tout compromis qui limitait, comme il l'a de fait limité, la capacité d'action autonome du POM. Ceci dit, il s'agit d'une question de tactique électorale, vous le voyez tout de suite. Il ne s'est pas un problème de stratégie, un problème de programme, comme Trotsky l'a pris. Là, c'est une faute grave de la part de Trotsky. Je peux même dire, et je crois même, que si on fait la comparaison, la position de Trotsky est beaucoup plus erronée que celle du POM dans l'option de février 36 vis-à-vis le Front populaire. Elle permettait beaucoup moins d'intervenir dans la situation politique, beaucoup moins d'agir sur les développements de la lutte politique. Maintenant, et très vite, sur le Front populaire, sa théorie. Nous avons vu déjà le programme, le gouvernement, ses orientations générales et comment il s'est imposé. Maintenant, c'est très clair si on fait la comparaison entre cette situation et ce qui est écrit au 7e congrès de l'international communiste, donc le rapport de Dimitrov. Comme vous savez, le rapport de Dimitrov, il parle très peu du Front populaire, il parle surtout du Front unique, et il a cette même fonction d'éduquer les militants sur une image de continuité de la lutte communiste pour le Front uni et pour la révolution prolétarienne. Et on peut même lire beaucoup de parties du rapport comme des contradictoires et comme critiques vis-à-vis de la théorie du Front populaire. Par exemple, sur les gouvernements de collaboration de classe, il a des phrases magnifiques qu'on peut même souscrire et qu'on doit dire qu'on est d'accord. Il dit, il y a ceux qui disent que la social-démocratie, pour s'opposer au fascisme, doit faire un gouvernement de collaboration de classe avec la bourgeoisie. Nous, on répond qu'il est clair comme la journée que la participation des ministres social-démocrates dans le gouvernement bourgeois, ce n'est pas une barrière contre le fascisme. Donc, enfin, il développe toute la ligne rupture de la collaboration de classe, gouvernement de front unique pour la transition vers la dictature du prolétariat, donc la continuité des idées des premiers congrès de l'international communiste. Et c'est ça qui a éduqué les militants et qui a maintenu cette image. Ça veut dire que cela a fonctionné. Cela a fonctionné. Et ça va nous poser un problème qu'on va en discuter dans la troisième partie. C'est un problème de construction de parti. Si cela fonctionne, cela crée une difficulté énorme pour expliquer pourquoi les révolutionnaires, quelles sont les critiques centrales des révolutionnaires, quelle est la démarcation des révolutionnaires vis-à-vis cette position, et pourquoi cette position est une position réformiste qui aide donc à paralyser la lutte révolutionnaire. Vous voyez, c'était très simple de faire la critique et de prendre l'initiative, comme le BOC en Catalogne, vers les alliances ouvrières, contre la ligne sectaire, quand il y avait la ligne du troisième période. Ça devient beaucoup plus difficile quand il y a poussé du mouvement de masse, illusion sur le Front populaire comme continuation de la lutte démocratique et l'adaptation du PC d'un sous-courant avec une ligne qui essaie de maintenir une apparence, une identité de lutte pour le communisme. Ça va poser des problèmes beaucoup plus concrets, beaucoup plus difficiles de construction et d'image de la révolution, et c'est un des grands problèmes que les révolutionnaires en Espagne vont discuter. Oui.
citas. Por Tomás Borges, que considera en su texto sobre Carlos Fonseca que 67, la guerrilla de Pancassan, casi lo dice explícitamente, significa un giro en la perspectiva estratégica del Frente
Sandinista.
Tanto por su propio fracaso, fue derrotado, es una fase necesaria de acumulación de experiencia, en ese sentido es una victoria, pero militarmente es una derrota. Y es una derrota propia y también coincide con varias derrotas de tipo foquista en América Latina. En 67 es la muerte del Che, el mismo año, y los años después en Perú, etc. Entonces dice Tomás Borges, a raíz de Pancassan se inicia el reflujo de la lucha armada en América Latina. Apenas unos días después del combate de Pancassan, muere heroicamente en Bolivia el comandante Che Guevara. Pancassan significó, por otra parte, el final de los remanentes foquistas. El final de los remanentes foquistas. O sea que él lo considera como una experiencia que termina una primera fase estratégica del Frente Sandinista, que es una especie de repetición ingenua de la Revolución Cubana, con una falsa imagen de la Revolución Cubana. Y ahí termina, dice, con los remanentes del foquismo.
67,
y a partir de aquí, para él, por lo menos, para hablar del presidente Tomás Borges, entra una perspectiva donde el esquema que orienta la perspectiva estratégica es más un esquema vietnamita de guerra prolongada, es decir, de acumulación de fuerzas regulares en el monte, en el campo, preparándose para una guerra de larga duración, culminando con la toma del poder por la derrota militar definitiva del enemigo.
Eso,
en un esquema, y combina más, obviamente, tiene otra importancia este esquema, que es otro esquema estratégico, pero al mismo tiempo establece otra relación entre lucha armada y partido. Es obvio, supongo que Pierre habló bastante, pero en el caso de Vietnam, el papel del partido como columna vertebral de la lucha armada es un problema propio, es mucho más presente, importante, que en el esquema foquista interpretado por Régis Debray en los años 60.
La concepción foquista de los años 60.
Donde el partido va a ser el resultado del foco, pero no la condición de una lucha armada prolongada. Porque esto es un cambio entonces importante que da mucho peso a un proyecto de construcción partidaria combinado con la lucha armada. O sea, de acumulación de fuerza, no es solamente ir al monte, pero de presencia en la ciudad, reclutamiento, presencia en el movimiento de masas, infraestructura urbana, etc. En una perspectiva muy duradera. Y con una influencia vietnamita que además facilita el problema de educación política, de cuadros, etc. Bueno, tercer punto, que ya mencioné porque ahí entramos en el verdadero debate, que hubo una cierta animación o reanimación del movimiento obrero y de masas urbanas a raíz del terremoto del 72, es decir, con manifestaciones y huelgas en el 73. Y ahí hay un cambio que creo que es muy importante, puede parecer obvio, quizás le va a parecer totalmente obvio, no sé, pero a mí me parece muy importante porque tuvimos el mismo debate en aquella época,
entender
que hay un nuevo giro en 74 donde vuelve a reaparecer al primer plano el tema de la insurrección, que es distinto de la guerra prolongada. Se trata de liberar un territorio para culminar con la toma de la ciudad.
Donc,
se trata de un proyecto de levantamiento urbano, armamiento de masas para derrotar el poder opresor de la dictadura. Y según lo que dicen ahora algunos cuadros del FSLN, por ejemplo una declaración, una entrevista de Joaquín Cuadra, dice que este cambio fue iniciado por el propio Carlos Fonseca en 74. Dice lo siguiente: el primer de nosotros que habló de estrategia insurreccional.
De estrategia insurreccional.
Eso se relaciona con el texto ya citado
cela
sobre Cuba.
En rapport avec le texte de Cuba.
Fue el propio fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador.
Fondateur de FSLN, Carlos Fonseca.
Discusiones muy serias tuvieron lugar ya en diciembre 74
en
La Habana.
À La Habana,
en el seno de la dirección,
que
estaba en exilio.
De la dirección,
dos concepciones se enfrentaron. Unos
les
querían continuar a acumular fuerzas
continuar a acumular
y a construir un ejército de guerrilla en los montes
de guerrilla,
del norte,
de du nord,
siguiendo la idea general de guerra popular prolongada.
L'idée générale de la, que, la
los otros, principalmente alrededor de Carlos Fonseca, Humberto Ortega y Jaime Willock, querían pasar a la ofensiva y acercarse a las zonas habitadas. Para mantener la cohesión, se adoptó un compromiso que decía que en la lucha para el socialismo era correcto mantener el concepto de guerra popular prolongada, pero que en la lucha contra la dictadura era posible hablar de proceso insurreccional. Puede parecer una historia de locos. Es solamente un juego de palabras, hay algo concreto detrás de esto. Creo que para mí, por lo menos, que ya estoy equivocado, parece que hay algo muy concreto detrás de esto. Voy a intentar
explicarlo.
Hay una animación del movimiento obrero y social urbano,
de movimiento
73-74. El problema es cómo responder a este movimiento. ¿Qué hacer frente a la dictadura? El compromiso.
La dictadura.
Es que va a haber dos fases militares en la lucha. Primero, una para derrocar la dictadura.
La primera, por
y la dictadura somocista puede ser derrocada por una insurrección. Somocista. Una insurrección
y
popular antidictatorial.
Es
lo que plantea Carlos Fonseca. Luego volveré sobre las consecuencias políticas y organizativas. Eso supone, obviamente, un trabajo de preparación más profundo en los centros urbanos, trabajo sindical, trabajo de organización de masas, etc. Supone esto, si no es pura abstracción. Y piensa que puede llegar a un desenlace rápido a este nivel, pero que esto no significa la victoria de la lucha para el socialismo. Eso es otro problema a más largo plazo, y que esto, para esto es necesaria una guerra prolongada.
Entonces,
hay dos aspectos militares. Uno, una insurrección para derrocar la dictadura, y dos, una guerra prolongada para hacer triunfar el socialismo. Puede parecer contradictorio con otros planteamientos de Carlos Fonseca, que dice precisamente que la lucha antidictatorial, visto la debilidad y incapacidad de la burguesía nacional, casi inmediatamente tiene una dinámica social obrera campesina hacia el socialismo. ¿Cuál es el debate que está detrás? No sé si algunos se recordarán de esos debates porque los tuvimos también. Para intentar aclararlo, voy a volver a referirme al planteamiento que era el planteamiento Santucho en Argentina en 73, porque es el mismo. La idea era que si hay una dinámica revolucionaria, si se desencadena realmente una dinámica revolucionaria, es inevitable, como ya existe en Vietnam, que haya intervención directa americana, que haya una invasión militar
yankee.
Y entonces que no puede haber
victoria revolucionaria
que no se enfrenta directamente con la presencia militar y física del imperialismo americano. Y que eso solo puede ser derrotado a través de una guerra prolongada.
Entonces,
la gente muy en serio que va a tener a prepararse para la futura intervención americana. Confundir las tareas inmediatas, lo que se puede hacer inmediatamente, con el hecho probable que mañana o pasado mañana va a haber aquí marines yanquis, intervención militar y presencia de un ejército de ocupación. Entonces, lo que está preparando, en realidad, la guerra prolongada de la cual se habla, de hecho es una guerra de liberación nacional, pero contra una futura presencia americana. Puede parecer extraño, pero Santucho se lo tomó en serio en absoluto. Toda su idea era esa. Por eso la retomada de Pour empezar a construir el ejército
revolucionario,
el ERP, es un ejército de liberación que prepara la guerra contra los yanquis. Por eso hay que construir zonas liberales. Por eso hay que asaltar cuarteles para sacar armamento antiaéreo, porque tendrá que defender zonas liberales. Por eso hay que hacer presos oficiales del ejército para negociar frente a los organismos internacionales de Ginebra, convención sobre los intercambios de presos de guerra. Bueno, no, lo tiene, pero es totalmente coherente. Totalmente coherente. Pero eso supone...